Que Québec se lève.
Connais-tu l'histoire du gars?
Ouais, l'histoire du gars qui... Si c'était moi qui décidais, là, si c'était moi le juge en chef de la Cour suprême de l'État dictatorial de Charon, là, ce gars-là aurait été pendu depuis longtemps.
Non.
Le gars qui a inventé...
La Miracle Whip.
La Miracle Whip.
C'est un génie, ça, Paul.
Hein? Cette sauce du diable.
C'est un usurpateur.
Non, ouais,
un copieur.
Un génie. Non, c'est
qui
pas
a
un
manqué
copieur.
Son coup.
Non, mais toi, t'es un fan de Miracle Whip?
Non. J'ai souvent été vendu à la Hellman, mais ben oui, j'apprends de plus en plus à beaucoup apprécier la Miracle Whip. Et l'important, c'est la diversité. Quand tu manges trop d'Hellman, tu finis par te tanner de la Hellman. Il faut que tu changes de temps en temps.
C'est faux.
Donc,
alors, c'est archi faux ce que tu dis.
C'est un Canadien qui a inventé la Miracle Whip. En gros, parce que c'est une histoire assez intéressante, celle de la Miracle Whip, qui a été inventée pendant une crise. Parce que la presse a écrit un texte là-dessus au cours des derniers jours sur lequel je suis tombé, parce que des crises économiques sont nées certaines inventions assez intéressantes, dont la Miracle Whip. James Lewis Craft, donc à cause de lui qu'on appelle ça la Miracle Whip de Marc Kraft, on s'en doute. C'est un gars qui est né dans une ferme à Stevensville, en Ontario. On était en 1874. Il se ramasse à un moment donné à Buffalo, puis il s'installe à Chicago. On est au début des années 1900. Il s'associe avec un partenaire dans le milieu du fromage. Mais à un moment donné, il finit par se faire tasser de l'entreprise pour des raisons un peu nébuleuses. Et là, il a 65$ dans ses poches. En US, ça fait que ce qu'il décide de faire, c'est de s'acheter une charrette, s'acheter un cheval. Et là, avec ça, il décide que lui, il va aller distribuer le fromage de certaines entreprises. Et à un moment donné, ses quatre frères vont venir s'associer à lui et vont former, là on est en 1909, la G. Hell Craft and Bros Company.
And Brothers.
And Brothers, c'est ça. Mais eux, ils écrivaient bro.co. Fait qu'ils ont décidé qu'ils inventaient ça. Et là, eux autres, ils ont entre autres inventé le procédé de fromage fondu. Mais tu comprends que le procédé...
Ils ont inventé le procédé de fromage fondu.
Pour faire
fondu.
Du fromage fondu. Entre autres, ils ont travaillé dans le Cheese Whiz, puis dans le...
Velvita.
Le Velvita, mais tu sais...
C'est des fromages en tranches.
Ils sont apparus. Sont une gang à avoir... Tu sais, il y a un moment donné, on était dans la course dedans, parce que j'avais déjà lu sur l'histoire du Velvita, puis... À la demande.
Attends, un instant.
Ouais, mais vas-y, là.
Je connais une seule personne sur la planète entière qui peut dire j'ai déjà lu sur le Velvita. C'est Alexis Samson.
Ouais.
J'ai déjà lu sur l'histoire du Velvita, puis sérieux, pas pire.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, il était dans la course à la découverte de ce procédé-là, le fromage fondu, parce qu'il était une gang là-dedans. Là. Monsieur Cheese Whiz, il courait pour avoir ça, la gang du Velvita, puis là, ben, c'était un
procédé.
Velvita.
Ouais, Velvita.
Il y a deux.
Non, mais on parle quand même d'un gars qui a la misère à différencier les œufs brouillés de deux œufs tournés.
Wow.
Ça fait qu'on va pas commencer à le fatiguer avec Velvita.
Non, brouillé, ça va. Tourné aussi. Et là, on tombe dans le base. Là,
poché.
Ça, je saurais pas comment faire ça.
Mollet.
Oh boy, là, ça va trop loin, ça. Ça va
trop loin. Je voulais pas te mêler.
Non. Écoute, là, on est autour des années 1915 et on est à la course au fromage fondu. Fait que eux autres. Ils s'impliquent là-dedans.
Ça va s'améliorer à cette affaire.
Oui, c'est toujours aussi incroyable. Fait que là, eux autres, grâce au fromage fondu, ils réussissent à s'assurer que l'entreprise va perdurer puis il y a de l'argent qui rentre. Et là, à un moment donné, ils se sont dit il faudrait peut-être s'intéresser à la mayonnaise. Ça s'annonce intéressant, la mayonnaise. Mais là, on est dans les années 20. Mais c'est pas vraiment le meilleur moment pour s'intéresser à la mayonnaise parce que t'as une crise économique qui te pointe au bout du nez. Puis, à l'époque, c'était des produits de luxe, la mayonnaise. Fait que là, la mayonnaise, il commence à investir là-dedans, mais il faut savoir qu'à la base, c'est Amelia Schroeder à Philadelphie. Ça n'a rien à voir avec le fromage Philadelphia, vérification faite.
Okay.
Elle a vendu 12 pots de mayonnaise, là, puis ils vendaient ça dans une épicerie locale.
Hey, cette histoire-là est incroyable, sérieux. Je comprends pas pourquoi c'est pas ça qu'on a mis sur Facebook Live. C'est tellement bon, là. La course au fromage fondu en 1915, les années 20, c'est pas un bon moment pour s'intéresser à la mayonnaise.
Non.
C'est, la fille de Philadelphie a rien à voir avec le Philadelphia. Vérification faite.
Oui, bien sûr.
Hier, là,
et je lisais sur l'histoire du Velvita aussi.
J'ai lu sur l'histoire du Velvita. Mais là, il y a un monsieur qui est apparu dans cette histoire-là. on est autour encore des années 1915.
Veux-tu juste un instant? Excuse-moi de te couper encore, oui. Là. C'est qui la bonne femme qui a vendu 12 pots de mayonnaise? Qu'est-ce qu'elle a à voir dans l'histoire, elle?
Ben, c'est la première qui s'est intéressée à la mayonnaise. C'est la première mayonnaise commerciale. Elle a vendu 12 pots, cette madame-là.
Qui se souvient de ça? Qui a raconté qu'elle en avait vendu 12 pots?
Je sais pas qui se souvient de cette affaire-là.
Il y a peut-être des registres. Non, je te crois.
Écoute, elle a vendu 12 pots de mayonnaise dans une épicerie locale à Philadelphie. Après ça, Richard Hellman. Il est arrivé. Le bonhomme Hellman. Lui, il était propriétaire d'une charcuterie à New York avec sa femme Margaret. Puis eux autres, ils ont dit on va proposer.
Ah, surtout aussi, ils ont dit
On devrait proposer.
On a vu ici.
Oui, mais c'est parce qu'on est dans l'alimentation. Oui,
c'est un sketch. Après,
ils ont salivé.
Ils sont dit, Margaret, on devrait s'introduire le mayonnaise.
Ça devrait être bon. Fait que là, on dit on va proposer ça à nos clients. Fait que là, hey, succès, toi. Ça a décollé, incroyable. En 1927, ils fabriquaient 3 tonnes de mayonnaise à l'heure.
Hey!
Pour un chiffre d'affaires de 15 millions US.
En quelle année?
Attends, 3 tonnes à l'heure.
À l'heure. Ouais. Mais on est en 1927.
Ça te prend du malaxeur au pouce carré? Mais on s'entend que la mayonnaise,
ça te prend des clients au pouce carré aussi?
C'est des œufs, de l'huile. Des œufs et de l'huile.
Ouais. Ouais. Mais ça, c'était avant que tout commence à s'écrouler parce que. Là. Ben
parce qu'on a trop produit pour le nombre de clients qu'il y avait. Là.
Hey, à ce moment-là. Là,
c'était comment que ça s'est écroulé déjà?
Parce qu'il n'y a pas de Costco à l'époque là, pour vendre ça. Là.
Non, entre autres. Un peu avant 1930, il y avait 600 fabricants de mayonnaise. C'était la guerre à la mayonnaise. Puis là, M. Kraft a regardé ça. Il s'est dit il faut qu'on rentre dans la compétition, nous autres aussi. Fait qu'on achète 4 petits fabricants à 1928-1929. Puis on lance notre propre marque de mayonnaise. Sauf que arrive la Grande Dépression, le crash boursier de 1929. Et à ce moment-là, dans la mayonnaise, qui était faite à base d'huile, de vinaigre, puis d'œufs, ça, c'était plus à la portée de M. Madame Tout-le-Monde. Donc, faut trouver
des produits chimiques.
Une alternative à ça. Fait qu'eux autres, plutôt de se dire, OK, on va en produire en quantité industrielle pour faire baisser le prix, on va changer la recette. Fait que là, il y a des cuisiniers chimistes, toute la patente, qui sont mis à mélanger toutes sortes d'affaires. Et là, ils ont mélangé de l'eau, l'huile de soya, sirop de maïs, vinaigre, puis une couple d'autres ingrédients, puis des épices.
C'est le sirop de maïs. C'est ça, maudite affaire. C'est ça, le problème.
Fait que là, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé avec ce procédé-là. Et il y a un employé, Charles F. Chapman, lui, là, c'était tout un fouetteur, ce bonhomme-là. Parce qu'il a inventé une machine qui réussissait à fouetter assez vite pour être en mesure que ça pogne, parce qu'il faut que tu fasses pogner ça, mais il faut que ça reste une belle sauce aussi en même temps.
Ouais, faut pas que ça vire.
Non, faut pas que ça vire. Fait que lui, il a réussi à avoir cette invention-là. En 1932, ils vont déposer une demande pour un brevet qu'ils ont obtenu. Et il y a un archiviste, parce que ça a l'air que Kraft, ils ont des archivistes, eux autres, dans la vie.
Ah bon?
Becky Hoglund. Lui, c'est l'archiviste de Kraft.
Qui?
Becky Hoglund.
OK.
En 2009.
Pas de problème.
Lui, il racontait que Chapman, il avait qualifié cette invention-là de fouet miracle.
Ah.
Donc, tu comprends que...
Miracle whip.
C'est à ce moment-là qu'on a appelé ça Domingue. Et la première Domingue. Et la première fois qu'on a vu ce fouet miraculeux-là à l'œuvre, c'est en 1933 à l'Exposition universelle de Chicago. Et là, il était capable de voir la patente qui fouettait.
La quantité de fouet. Hey,
eux autres, c'était incroyable. À ce moment-là, les gens, ils étaient sous le choc. Ils sont tombés en amour avec ça.
Le fouet.
C'est avec le fouet, absolument.
Ben oui.
Et ben malheureusement, là, c'est ça. Après ça, c'était dans la période de la Grande Dépression. Mais Kraft a quand même pas hésité à mettre beaucoup d'argent dans la publicité à ce moment-là. C'est ça qui fait que ça a pogné autant. Parce que Kraft... Là,
ça, puis le goût.
Ben oui, le goût.
Excuse, là, mais...
Ouais, mais c'est parce que t'es
c'est le fun de manger de la mayonnaise qui est pas sucrée, là, en passant. C'est quand même agréable, là.
C'est, ben oui. Mais c'est parce que eux autres, ils se sont dit, OK, on est dans une période économique bien difficile, qu'est-ce qu'on fait? On a une invention, est-ce qu'on se dit, on l'essaye ou on y va vraiment all-in? Eux autres, là, ils ont acheté un show de musique.
Ils ont quoi?
Une émission de musique à la radio en 1933. Ça s'appelait le Kraft Music Hall. Ça a été animé, entre autres, par Bing Crosby. Puis c'était popularisé par Kraft. Il faisait ça. Et le slogan qui était utilisé en Nouvelle-Angleterre, c'est « Les millions la préfèrent à la mayonnaise. Pourtant, elle coûte moins cher. » Et tu vois, il y a une coupe de publicité qui sont incroyables concernant la Miracle Whip qui date de genre 1950. Et il y en a une, je vais vous en faire entendre deux, là, où on raconte que la Miracle Whip, il n'y a rien qui égale ce goût-là.
At the heart of every salad. At the heart of
salad. Miracle Whip salad dressing from Kraft, because nothing can match its taste. Absolutely nothing.
En passant, il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit pour dire... la Miracle Whip, c'est pas de la mayonnaise, c'est de la sauce à salade. Puis quand t'acceptes ça... Moi, je vous dis, si vous me recevez chez vous à souper, vous mettez de la Miracle Whip dans de la laitue, là, je m'en vais. C'est pas vrai. C'est pas de la sauce à salade, là. Faire une salade avec ça, c'est quoi cette affaire-là?
Mais non, c'est pas de la sauce à salade.
Et c'est très porno,
en fait,
hein, comme
parce que c'est, je pense qu'ils sont obligés de mettre ça parce que c'est pas la vraie recette de mayonnaise.
Aye. Ouais, mais c'est parce que, probablement que Hellman avait le brevet sur la mayonnaise en soi. Mm. Fait qu'eux autres, ils ont décidé qu'ils allaient appeler ça.
Je vais te renvoyer la question d'Erico, un auditeur qui dit, mais. T'as pogné ça où, man? Et puis Nadia aussi, c'est écœurant. Nadia a dit, j'imagine le jeune Alexis dans l'épicerie avec ses parents. Curieux, il effectue ses premières recherches sur le Velvita. Plus tard, il devient journaliste. Il fait des chroniques sur le Velvita et la mayonnaise.
Oui, non, mais ça, je vous dis, ça a été inspiré d'un texte de la presse que j'ai vu passer cette semaine, des inventions en temps de crise. Sérieux, c'est incroyable. Quand tu te mets à t'intéresser à l'histoire, là, c'est fou raide.
Tu te mets à t'intéresser à l'histoire?
C'est ça. Hey, combien ça valait à l'époque? Là, on doit être autour des années 1940, peut-être, là, le prix des bocaux, parce que c'était en bocal de verre à l'époque, là. Mm-hmm. Des petits, des moyens, puis des gros. 5 cents.
Mmh. Allez, en quelle année?
Moi, je pense 1940, à peu près.
Ouais, 10 cents le petit. Moi.
10 cents le petit, ben pile, Vez.
Okay.
18 le moyen.
Puis 25 le gros.
30 le gros format.
30 et Christy.
C'était du gros format à l'époque. Puis on dit que 6 mois après que la Miracle Whip est arrivée sur le marché, bang, il était numéro 1 puis il vendait tout. Là. C'était eux autres qui dominaient le marché. Entre autres, grâce à des publicités aussi comme celle-là où le gars, il est complètement désemparé parce qu'il arrive au magasin puis il veut de la Miracle Whip, mais le magasin est fermé, il y a le vôtre.
Would you please let me in? I'm out of Miracle Whip. We're closed. Come back tomorrow.
A sandwich just isn't a sandwich without Miracle Whip salad dressing. The bread spread from Kraft.
They're closed.
They're closed.
C'est incroyable, cette affaire-là.
Ah, il y a Electrolyse qui propose qu'on prenne ta température, Alex.
Ah, moi, ça va très bien.
Alors, si je résume,
oui.
Charles F. Chapman était tout un fouetteur.
Oui.
1915, c'est la course au fromage fondu. Les années 20, c'était pas un bon moment pour s'intéresser à la mayonnaise.
Oui.
Et tu lisais sur l'histoire du Velvetta.
J'ai lu sur l'histoire du Velvetta.
C'est une des meilleures chroniques que j'ai entendues de ma vie.
Okay. C'est hilarant.
Courte pause.
Que Québec se lève.
De retour après.